Deuxième partie, chapitre 5. Après une semaine de voyage en Écosse, Milord et Milady revinrent subitement à Londres. Sa visite aux montagnes et aux lacs écossais n'avait point donné à Milady le désir de faire plus ample connaissance avec eux. Quand on lui en demanda la raison, elle répondit laconiquement « J'ai déjà vu la Suisse ». Pendant une semaine encore, les nouveaux mariés restèrent à Londres, vivant en véritable reclus. Un jour, la vieille nourrice qui revenait de faire une commission dont Agnès l'avait chargée, rentra dans un état d'excitation difficile à décrire. En passant devant la porte d'un dentiste à la mode, elle avait rencontré Lord Monbury qui en sortait. La bonne femme dépeignit cette rencontre avec un malin plaisir, représentant Lord Monbury comme affreusement malade. « Ses joues se creusent, ma chérie, sa barbe est grise, ah, j'espère que le dentiste lui a fait beaucoup de mal. » Sachant que sa vieille et fidèle servante haïssait de tout son cœur l'homme qu'il avait abandonné, Agnès fit la part d'une grande exagération dans le récit qu'elle venait d'entendre, et néanmoins, sa première impression fut celle d'un véritable malaise. Elle risquait, en effet, elle aussi, de rencontrer dans la rue Lord Monbury. Il était même possible qu'elle se trouvât face à face avec lui la première fois qu'elle sortirait. Elle resta deux jours entiers chez elle, honteuse de cette crainte ridicule. Le troisième jour, les nouvelles du monde, dans les journaux anglais, annoncèrent le départ pour Paris de Lord Monbury se rendant en Italie. Madame Ferraris vint le même soir prévenir Agnès que son mari l'avait quittée en lui donnant quelques preuves de tendresse conjugale. La seule perspective d'aller à l'étranger l'avait rendue plus aimable. Un seul domestique accompagnait les voyageurs. La femme de chambre de Lady Monbury, une silencieuse et revêche créature, avait-on dit à Emily. Le frère de madame, le baron Rivard, était déjà sur le continent. Il avait été entendu qu'il retrouverait à Rome sa sœur et son mari. Les semaines se succédaient tristement pour Agnès. Elle montrait dans sa position un courage admirable, voyant ses amis, s'occupant à ses heures de loisirs à lire ou à dessiner, essayant de tout enfin pour détourner son esprit des tristes souvenirs du passé. Mais elle avait trop aimé, avait été trop profondément blessée pour que les remèdes moraux qu'elle employait eussent eu une influence quelconque sur elle. Les personnes qui se trouvaient avec elle dans les relations ordinaires de la vie, trompées par l'apparente sérénité de ses manières, étaient d'accord pour dire que Miss Lockwood paraissait oublier ses malheurs. Mais une vieille amie à elle, une amie de pension, qui la vit pendant un petit voyage à Londres, fut très vivement alarmée par le changement qu'elle remarqua chez Agnès. Cette amie était Madame Westwick, femme de ce frère cadet de Lord Monbury, que le dictionnaire nobiliaire indiquait comme héritier présomptif du titre. Il était en Amérique, surveillant les propriétés minières qu'il y possédait. Madame Westwick insista pour emmener Agnès chez elle en Irlande. « Mais venez me tenir compagnie pendant que mon mari est absent. Mes trois petites filles vous feront une société. » La seule étrangère que vous verrez est la gouvernante, et je réponds d'avance que vous l'aimerez. Faites vos paquets, et je viendrai vous prendre demain pour aller à la gare. » Agnès ne pouvait qu'accepter une aussi aimable invitation. Pendant 3 mois, elle vécut heureuse sous le toit de son amie. Les petites filles en larmes s'accrochèrent à ses vêtements lors de son départ. La plus jeune voulait absolument partir à Londres avec Agnès. Moitié plaisantant, moitié sérieusement, elle dit à Madame Westwick en se séparant, « Ben, si votre gouvernante vous quitte, gardez-moi sa place. » Madame Westwick sourit. Les enfants prirent gravement la chose au sérieux et promirent à Agnès de la prévenir. Le jour même où Agnès Lockwood revint à Londres, le passé se rappela à son souvenir. Elle qui tenait tant à l'oublier. Après les premiers embrassements, les premiers compliments, la vieille nourrice qui était restée pour garder l'appartement eut des nouvelles importantes à donner de la femme du courrier. « Oh, la petite Madame Ferrari s'est venue, ma chérie, dans un état affreux, demandant quand vous serez de retour. Son mari a quitté Lord Monbury sans prévenir et personne ne sait ce qu'il est devenu. » Agnès la regarda avec étonnement. « Êtes-vous sûre de ce que vous dites ?» La nourrice répondit qu'elle en était absolument sûre. « Mais mon Dieu, mademoiselle, ajouta-t-elle, la nouvelle vient du bureau des courriers dans Golden Square, le secrétaire, mademoiselle Agnès, du secrétaire lui-même. » À cette nouvelle affirmation, Agnès, surprise et inquiète, envoya sur le champ, la soirée n'était pas encore très avancée, prévenir Madame Ferrari qu'elle était de retour. Une heure après, la femme du courrier arriva dans un état d'agitation incroyable. Quand elle put parler, elle confirma en tout point ce qu'avait dit la nourrice. Après avoir reçu avec assez de régularité des lettres de son mari, datées de Paris, de Rome et de Venise, Émilie lui avait écrit deux fois sans recevoir de réponse. Fort inquiète, elle était allée au bureau à Golden Square, demander si on avait des nouvelles de son mari. La poste du matin avait apporté au secrétaire une lettre d'un courrier qui était à Venise. Elle contenait des renseignements sur Ferraris. On avait laissé sa femme en prendre une copie qu'elle apportait à lire à Agnès. Celui qui y écrivait disait qu'il était tout récemment arrivé à Venise et que, sachant que son ami Ferraris était avec Laure et Lady Monbury, logé dans un vieux palais vénitien qu'on avait loué à bail, il était allé pour le voir. Après avoir sonné à une porte ouvrant sur le canal, sans pouvoir se faire entendre, il était allé de l'autre côté donnant dans une étroite allée, comme la plupart des rues de la ville. Il trouva sur le seuil de la porte, comme si elle se fût attendue à ce qu'il vînt ensuite par là, une femme pâle avec de magnifiques yeux clairs, qui n'était autre que Lady Monbury. Elle lui demanda en italien ce qu'il voulait. Il répondit qu'il désirait voir le courrier Ferrari, si cela était possible. Aussitôt, elle lui dit que Ferrari avait quitté le palais, sans donner aucune explication, sans même laisser une adresse à laquelle on pût lui faire parvenir les gages du mois courant qui lui étaient dus. Tout étonné, le courrier demanda si quelqu'un avait fait de vifs reproches à Ferrari ou si l'on s'était disputé avec lui. Voici la réponse même de la dame. « Non, à ma connaissance, on n'a rien dit à Ferrari et il n'a eu de dispute avec personne. Je suis Lady Monbury et je puis vous assurer que Ferrari a été traité chez nous avec la plus grande bonté. Nous sommes aussi étonnés que vous de la disparition extraordinaire. Si vous entendez parler de lui, je vous prie de nous le faire savoir afin que nous puissions au moins lui payer ce qui lui est dû. » Après une ou deux questions qu'elle répondit encore sur la date et l'heure à laquelle Ferrari avait quitté le palais, le courrier s'éloigna. Sur le champ, il commença les recherches nécessaires sans le moindre résultat. D'ailleurs, personne n'avait vu Ferrari. Il n'avait fait de confidence à personne. En un mot, nul ne savait quoi que ce fût d'important, pas même sur Lord et Lady Monbury. Le bruit courait bien que la servante anglaise de Madame l'avait quitté avant la disparition de Ferraris pour retourner auprès de sa famille dans son pays et que Lady Bunbury n'avait pas cherché à la remplacer. On parlait de Milord comme d'un homme d'une santé faible. Il vivait dans la plus absolue solitude. Personne n'était admis à le voir, pas même ses compatriotes. On avait découvert une vieille femme imbécile qui faisait le ménage. Elle arrivait le matin et s'en allait le soir, mais elle n'avait jamais vu le courrier. Elle n'avait même pas aperçu Lord Mountbury, qui restait alors confiné dans sa chambre. Madame, une bien bonne et bien charmante maîtresse, prodiguait des soins assidus à son mari. Il n'y avait pas d'autre père domestique dans la maison, du moins la bonne femme n'en connaissait pas d'autre qu'elle. On faisait venir les repas du restaurant. Milord, disait-on, n'aimait pas les étrangers. Le beau-frère de Milord, le baron, était généralement enfermé dans un endroit retiré du palais, occupé, disait l'excellente maîtresse, à des expériences de chimie. Ces expériences répondaient quelquefois à une mauvaise odeur. Un médecin avait été appelé récemment pour voir sa seigneurie, un médecin italien, résident depuis longtemps à Venise. On lui fit quelques questions. C'était un médecin de talent et un noble d'une réputation fort honorable. Il n'avait pas vu Ferraris, ayant été mandé au palais, comme il le fit voir par son agenda, à une date postérieure à la disparition du courrier. Le médecin donna quelques détails sur la maladie de Lord Mountbury. C'était une bronchite. Il n'y avait encore aucune crainte à avoir, bien que la maladie fût aiguë. Si des symptômes alarmants venaient à se produire, il était entendu avec madame qu'on appellerait un autre médecin. Il était impossible de dire trop de bien de Milady. Nuit et jour, elle veillait au chevet de son mari. Voilà tout ce que révéla l'enquête faite par le courrier, ami de Ferraris. La police était à la recherche de l'homme disparu. C'était le seul espoir qui restât à la femme de Ferraris. « Qu'en pensez-vous, mademoiselle ?» demanda avec vivacité la pauvre femme. « Que me conseillez-vous de faire ?» Agnès ne savait que lui répondre. Elle avait réellement souffert en écoutant Émilie. Ce qui se rapportait à Mountbury dans la lettre du courrier, la nouvelle de sa maladie, la triste peinture de la vie retirée qu'il menait, avait rouvert l'ancienne blessure. Elle ne pensait même pas à la disparition de Ferraris. Son esprit était à Venise auprès du malade. Pensez-vous que cela vous donnerait une idée, mademoiselle, si vous lisiez les lettres que mon mari m'a écrites? Il n'y en a que trois, ce ne sera pas long. Agnès, par bonté, se mit à lire les lettres. Elles n'étaient pas des plus tendres. « Chère Émilie et votre affectionnée étaient, bien que conventionnelles, les seuls mots aimables qu'elle contint. Dans la première lettre, on ne parlait pas très favorablement de Lord Mountbury. Nous quittons Paris demain. Je n'aime pas beaucoup Milord. Il est fier et froid, et entre nous, fort avare de son argent. J'ai eu avec lui des discussions pour des riens, pour quelques centimes sur une note d'hôtel. Et deux fois déjà, il y a eu des mots piquants entre les nouveaux mariés, à cause de la facilité avec laquelle madame a acheté toutes les jolies choses qu'ils ont tentées dans les magasins de Paris. Mes moyens ne me le perpètent pas, il faut que vous dispensiez pas plus que ce que je vous donne. Il lui a dit très ferme. Quant à moi, j'aime madame, elle a des façons gracieuses et aimables des étrangères, elle me parle comme si j'étais son égale. La seconde lettre était datée de Rome. « Les caprices de Milord, écrivait Ferraris, ne nous laissent pas un instant de repos. Il devient d'une humeur intolérable. Je pense qu'il est tourmenté par des souvenirs pénibles. Je le vois constamment lire de vieilles lettres quand sa femme n'est pas là. Nous devions rester à Gênes, mais nous l'a fait quitter à la hâte, de même que Florence. Ici, à Rome, Milady insiste pour se reposer. Son frère est venu nous retrouver. Il y a déjà eu une dispute à ce que m'a dit la femme de chambre entre Milord et le baron. Ce dernier voulait emprunter de l'argent à M. Milord, qui a refusé sur un ton qui a offensé le baron Rivard. Milady les a remis d'accord et leur a fait échanger une poignée de main. La troisième et dernière lettre était de Venise. Encore des économies de Milord. Au lieu de rester à l'hôtel, nous avons loué un vieux palais humide, moisi et désert. Milady insiste pour avoir les meilleures chambres partout où nous allons, mais le palais coûte bien moins cher que l'hôtel, et nous l'avons pour 2 mois. Milord a essayé de l'avoir pour plus longtemps. Il prétend que la tranquillité de Venise lui fait du bien. Mais un spéculateur étranger a acheté le palais et va le transformer en hôtel. Le baron est toujours avec nous. Il y a encore eu des ennuis pour des affaires d'argent. J'aime pas le baron, mais sympathie pour Milady n'augmente pas non plus. Elle était bien plus aimable avant que le baron nous eût rejoint. Milord paie très exactement, c'est un point d'honneur chez lui. Il n'aime pas se séparer de son argent, mais il s'y décide parce qu'il a donné sa parole. Je reçois mon salaire régulièrement à la fin de chaque mois. Pas un franc de plus, par exemple, bien que j'ai fait une foule de choses qui n'entrent pas dans le service d'un courrier. Figurez-vous, le baron essayant de m'emprunter de l'argent à moi. C'est un joueur endurci. Je n'avais pas cru quand la femme de chambre de Milady me l'avait dit, mais j'en ai vu assez depuis pour me convaincre. J'ai vu en outre d'autres choses qui, eh bien, qui n'augmentent pas mon respect pour Milady et le baron. La femme de chambre a l'intention de s'en aller. C'est une Anglaise rigide qui ne prend pas les choses tout à fait aussi bien que moi. La vie est bien triste ici. On ne va à nulle part, pas une âme ne vient à la maison, personne ne fait de visite à Milord, pas même le consul, son banquier non plus. Quand il sort seul, et généralement vers la tombée de la nuit. À la maison, il s'enferme dans sa chambre avec ses livres, et voit aussi peu sa femme et le baron que possible. Je crois que nous ne sommes pas loin d'une crise. Quand les soupçons de Milord seront une fois éveillés, les conséquences seront terribles. Dans certains cas, je crois, Lord Bunbury, homme à ne s'arrêter devant rien. Néanmoins, mes gains sont bons et mes moyens ne me permettent pas de quitter la place comme la femme de chambre de Milady. Agnès, avec un sentiment de honte et de chagrin qui n'en faisait pas une bonne conseillère pour la malheureuse femme qui implorait ses avis, rendit les lettres qui venaient de lui apprendre les peines qu'avait déjà supportées par sa faute l'homme qui l'avait abandonnée. « La seule chose que je puisse vous dire, reprit-elle après avoir prononcé quelques paroles de consolation et d'espoir, et qu'il faut consulter une personne de plus d'expérience que moi. Voulez-vous que j'écrive à mon notaire, qui est en même temps mon ami et mon homme d'affaires, de venir demain, dès qu'il aura terminé ses travaux ? » Émilie accepta cette proposition avec reconnaissance. On prit rendez-vous pour le lendemain. Agnès se chargea d'écrire la lettre nécessaire, et la femme du courrier s'en alla. Fatiguée, blessée au cœur, Agnès s'étendit sur le canapé pour se reposer et se remettre un peu. La nourrice, toujours pleine de sollicitude, lui apporta une tasse de thé. Le bavardage de la bonne vieille, qui roula sur elle-même et sur ce qu'elle avait fait pendant l'absence d'Agnès, fut une sorte de soulagement. Elle causait beaucoup encore tranquillement, quand on frappa un coup violent à la porte de la maison. des pas précipités montèrent l'escalier. La porte de la chambre fut ouverte avec fracas, et la femme du courrier entra comme une folle. « Il est mort! Ils l'ont assassiné !» Ce fut tout ce qu'elle put dire. Elle se jeta à genoux auprès du canapé, et tendit une main qui serrait un papier, tomba à la renverse. La nourrice fit signe à Agnès d'ouvrir la fenêtre et s'occupa de rappeler la malheureuse à la vie. « Qu'est-ce donc que cela ? » s'écria-t-elle tout à coup. « Et tiens, une lettre. Voyez ce que c'est, mademoiselle. » L'enveloppe ouverte était adressée à Madame Ferraris. L'écriture était évidemment contrefaite. Le cachet de la poste était celui de Venise. L'enveloppe renfermait une feuille de papier à lettres et un billet plié en plusieurs doubles. La lettre avait une ligne d'une écriture contrefaite également. « Pour vous consoler de la perte de votre mari. » Agnès ouvrit ensuite un morceau de papier qui était joint. C'était un billet de la Banque d'Angleterre de 1000 livres sterling. Chapitre 10. Voyons, ma chère dame, quoi que vous ayez à me dire, hâtez-vous. Je ne veux pas vous presser inutilement, mais c'est l'heure de mes affaires et je n'ai pas à m'occuper que des vôtres. C'est en ces termes que M. Troy s'adressait avec sa bonhomie habituelle à la femme de Ferraris, tout en jetant un coup d'œil sur sa montre qu'il posa devant lui. Ensuite, il s'accouda pour écouter ce que sa cliente pouvait avoir à lui dire. « T'as encore quelque chose sur la lettre qui contenait le billet de banque de 1000 livres ?» commença Madame Ferraris. « J'ai découvert qui me l'a envoyé. » M. Troy fit un mouvement. « Voici du nouveau. Et qui vous a envoyé la lettre ?»« Lord Bunbury, monsieur. » Il n'était pas facile de causer de la surprise à M. Troy, mais les paroles de Madame Ferraris l'avaient absolument stupéfait. Pendant un instant, il la regarda, tout étonné, sans dire un mot. « Pas possible !» reprit-il dès qu'il fut revenu de son premier étonnement. « Vous vous trompez, cela ne peut pas être !»« Il n'y a pas d'erreur possible, » reprit Madame Ferrari avec son air affirmatif. « Deux messieurs du bureau d'assurance sont venus me voir ce matin pour me demander la lettre. Ils ont été fort étonnés, surtout quand ils ont vu le billet de banque. Mais ils savent qui l'a envoyé. À la demande de Milord, son médecin l'a mise à la poste à Venise. Allez vous-même chez ces messieurs si vous ne voulez pas me croire, monsieur. Ils ont bien voulu me demander si je savais pourquoi Lord Bunbury m'écrivait et m'envoyait de l'argent. » Je leur ai donné mon opinion immédiatement. J'ai dit que c'était un fait de sa bonté habituelle. De sa bonté habituelle, répéta M. Troy, tout à fait étonné. Oui, monsieur, Lord Bunbury m'a connu, ainsi que tous les autres membres de sa famille, quand j'étais à l'école dans ses terres en Irlande. S'il avait pu, oh, il aurait protégé mon pauvre cher mari, mais que pouvait-il entre Milady et le baron ? La seule chose qu'il ait pu faire, en vrai gentilhomme qu'il était, a été d'assurer ma vie après le décès de mon mari. Jolie explication, s'écria M. Troy. Et qu'en ont pensé vos visiteurs du bureau d'assurance ? Ben, ils m'ont demandé si j'avais quelques preuves de la mort de mon mari. « Et qu'avez-vous dit ?»« J'ai répondu, mais j'ai mieux qu'une preuve, monsieur, j'ai une opinion positive à vous donner. » Et ils se sont déclarés satisfaits, bien entendu. « Ils ne l'ont pas dit précisément, monsieur, mais ils se sont regardés et m'ont souhaité le bonjour. »« Eh bien, madame Ferraris, à moins que vous n'ayez encore quelques autres nouvelles extraordinaires à m'apprendre, » j'espère bien que je vous souhaite, vous aussi, le bonjour. Je prends note du renseignement, fort curieux d'ailleurs, que vous venez me donner, mais en l'absence de toute preuve, je ne peux rien faire de plus. Ben, si c'est une preuve que vous voulez, monsieur, et pas autre chose, reprit Madame Ferraris en se drapant dans sa dignité, je puis vous la procurer. Mais avant, je veux savoir si la loi me permet de faire ce que bon me semble. Vous avez pu voir par les nouvelles du monde dans les journaux que Lady Monbury est descendue à Londres, à l'hôtel Newsbury. Ben, je me propose d'aller la voir. Oh, ne vous en avisez pas. Mais en fait, pourquoi voulez-vous la voir? Madame Ferraris répondit avec un air de mystère. Je veux la faire tomber dans un piège. Je ne lui ferai pas annoncer mon nom. Je dirai que je viens pour affaire, et voici les premiers mots que je prononcerai. Je viens, Milady, vous accuser réception de l'argent envoyé à la veuve de Ferraris. Ah, oui, vous pouvez être étonné, monsieur Troy. Cela vous surprend, n'est-ce pas? Calmez-vous. La preuve que tout le monde réclame, je la découvrirai sur son visage coupable. Qu'elle change seulement de couleur, que ses yeux se baissent une demi-seconde, et je lui arracherai son masque. La seule chose que je veuille savoir est celle-ci. La loi me le permet-elle? La loi ne vous le défend pas, répondit gravement M. Troy. Mais que Lady Monbury vous laisse faire, c'est une toute autre question. Voyons, Madame Ferrari, avez-vous réellement assez de courage pour mener à bonne fin une aussi difficile entreprise? Miss Lockwood m'a dit que vous étiez très timide et assez nerveuse, et si j'en crois ce que j'ai vu par moi-même, Miss Lockwood ne s'est pas trompée. Si vous aviez vécu à la campagne, monsieur, au lieu de vivre à Londres, vous auriez vu quelquefois un mouton se jeter sur le chien du troupeau. Oh, je suis loin de dire que je suis brave, au contraire. Mais quand je serai en présence de cette misérable et que je penserai à mon pauvre mari assassiné, celle de nous deux qui aura peur, ce ne sera pas moi. J'y vais de ce pas, monsieur, et vous verrez comment tout cela finira. Je vous souhaite le bonjour. Après cette déclaration de bravoure, la femme du courrier rajusta son manteau et sortit. Un sourire se dessina sur les lèvres de M. Troy, non pas railleur, mais plein d'une sorte de compassion. Cette pauvre innocente, se dit-il. Si la moitié de ce que l'on dit de Lady Monbury est vrai, Madame Ferraris et son piège vont avoir un triste sort. Ah, je me demande comment tout cela va finir. Et malgré toute son expérience, M. Troy ne put découvrir comment cela finirait. Cependant, Madame Ferraris mettait son idée à exécution. Elle alla tout droit à l'hôtel Newsbury. Lady Monbury était chez elle et seule. Mais on hésita à la déranger quand la visiteuse eut refusé de donner son nom. La nouvelle femme de chambre de Milady traversa justement le vestibule de l'hôtel pendant la discussion. C'était une Française, on l'appela. Elle trancha aussitôt la question avec un air déluré contre toutes ses compatriotes et avec intelligence, à son avis du moins. Madame semble très bien, dit-elle. Madame peut avoir des raisons pour ne pas donner son nom, des raisons que Milady peut approuver. En tout cas, n'ayant pas d'ordre m'interdisant de recevoir, Madame s'expliquera avec Milady. Que Madame soit assez bonne pour me suivre. Malgré la résolution qu'elle avait prise, le cœur de Madame Ferraris battait à tout rompre. Quand la femme de chambre qui la précédait la fit entrer dans l'antichambre et frappa à une des portes qui s'y ouvrait. Mais il est à remarquer que les personnes du tempérament le plus timide et le plus nerveux sont en général mieux que toutes autres capables de chercher leurs faiblesses et d'accomplir des actes de courage, touchant presque à la témérité. Une voix grave, partant de la chambre, cria « Entrez !» La domestique ouvrit la porte et annonça « Une dame qui demande à vous parler pour affaires, Milady. » Puis elle se retira immédiatement. Au même instant, la timide petite Madame Ferrari comprima les battements de son cœur. Elle passa le pas de la porte, les mains crispées, les lèvres sèches, la tête brûlante, et se trouva en présence de la veuve de Lord Monbury. Toutes deux étaient parfaitement calmes en apparence. Il était encore de bonne heure, mais le jour pénétrait à peine dans la chambre. Les stores étaient baissés, Lady Monbury était assise, le dos tourné à la fenêtre, comme si la lumière même tamisée lui eût fait mal. Oh, elle était bien changée depuis le jour mémorable où le docteur Wybrow l'avait reçue dans son cabinet de consultation. Sa beauté avait disparu. Elle n'avait plus, comme le remarqua Madame Ferraris, que la peau sur les os. Cependant, le contraste entre son teint sépulcral et ses yeux noirs d'un brillant métallique, encore relevé par l'éclatante blancheur de son bonnet de veuve, existait encore. Accroupie comme une panthère sur un petit canapé, elle regarda tout d'abord l'étrangère qui entrait chez elle avec une certaine curiosité, puis elle laissa retomber ses yeux sur l'écran qu'elle tenait à la main pour garantir son visage du feu. « Je ne vous connais pas, dit-elle, que me voulez-vous ? » Madame Ferrari s'essaya de répondre. Son éclair de courage n'existait déjà plus. Ses paroles pleines de bravoure qu'elle était résolue à dire étaient encore vivantes dans son esprit, mais elles moururent sur ses lèvres. Il y eut un moment de silence. Lady Monbury regarda encore une fois l'étrangère, toujours muette. « Êtes-vous sourde ? » demanda-t-elle. Il y eut un nouveau silence. Lady Monbury reporta tranquillement son regard sur son écran et fit une dernière question. « Est-ce de l'argent que vous voulez ?»« De l'argent !» Ah, ce seul mot redonna tout son courage à la femme du courrier. Elle retrouva sa voix. « Regardez-moi bien, Milady !» s'écria-t-elle. Lady Monbury se retourna pour la troisième fois. Les paroles qu'elle s'était promis de dire sortirent des lèvres de Madame Ferraris. « Je viens, Milady, vous accuser réception de l'argent envoyé à la veuve de Ferraris. » Les yeux noirs et toujours brillants de Lady Monbury se reposèrent avec étonnement sur la femme qui venait de lui parler ainsi. Rien ne vint troubler la placidité de son visage, pas la moindre expression de confusion ou de crainte, pas le moindre signe momentané d'étonnement. Elle se mit à fixer de nouveau l'écran qu'elle tenait toujours aussi tranquillement que si on ne lui eût rien dit. L'épreuve avait donc été tentée, elle avait entièrement échoué. Il y eut encore un silence. Lady Monbury semblait réfléchir. Ce sourire qui ne faisait que paraître et disparaître, ce sourire à la fois triste et cruel, se dessina sur ses lèvres minces. De son écran, elle désigna un siège placé de l'autre côté de la chambre. « Prenez la peine de vous asseoir, » dit-elle. Impuissante maintenant qu'elle se sentait battue sur son propre terrain, ne sachant plus que dire et que faire, Madame Ferrari s'obéit machinalement. Lady Monbury, pour la première fois, se souleva un peu du canapé et se mit à l'observer avec un regard scrutateur, pendant qu'elle traversait la chambre, puis elle reprit sa position primitive. « Non, se dit-elle à elle-même, la femme marche droite, elle n'est pas ivre, elle est peut-être folle. » Mais elle avait parlé assez haut pour être entendue. Piquée par cette insulte, Madame Ferrari se répondit aussitôt « Oh non, je ne suis ni plus ivre ni plus folle que vous. » « Vraiment ?» reprit Lady Bunbury. « Alors vous êtes une insolente. » J'ai remarqué en effet que le peuple anglais est assez mal appris. Nous autres, étrangers, nous nous en apercevons facilement dans les rues. Je ne peux pas vous suivre sur ce terrain, je ne saurais que vous dire. Ma femme de chambre est une maladroite de vous avoir laissé entrer aussi facilement chez moi. Votre petit air innocent l'aura trompé sans doute. Je me demande qui vous êtes. Vous me nommez un courrier qui vous a quitté d'une manière fort inconvenante. Était-il marié? Êtes-vous sa femme? Enfin, savez-vous où il est? L'indignation de Madame Ferrari s'éclata aussitôt. Elle s'approcha du canapé, et dans sa rage, elle n'avait plus peur de rien. « Mais je suis sa veuve, et vous le savez bien, méchante femme que vous êtes. Ah, ce fut une heure maudite que celle où Miss Lockwood recommanda mon mari comme courrier au Lord. » Avant qu'elle eût pu ajouter une autre parole, Lady Monbury sauta du canapé avec l'agilité d'une chatte, la saisit par les épaules et la secoua avec la force et la frénésie d'une folle. « Mais vous mentez, vous mentez, vous mentez !» Elle la lâcha enfin et leva ses mains au ciel avec un geste de désespoir sauvage. « Mais mon Dieu, est-ce possible ? » s'écria-t-elle. « Se peut-il que le courrier soit entré chez nous grâce à cette femme ?» Elle revint soudain sur Madame Ferraris et l'arrêta au moment où elle allait sortir de la chambre. « Restez ici, misérable !» « Restez ici et répondez-moi. Si vous criez, aussi vrai que le ciel est au-dessus de nos têtes, je vous étrangle de mes propres mains. Asseyez-vous et n'ayez pas peur. Imbécile, c'est moi qui ai peur tellement que je perds l'esprit. Avouez que vous avez menti quand vous avez prononcé le nom de Miss Lockwood. Non, je ne croirai même pas vos serments. Je ne croirai personne. » Miss Lockwood exceptée. Où demeure-t-elle? Dites-le-moi, misérable petit insecte. Vous pourrez partir ensuite. » Toute tremblante, Madame Ferrari s'hésitait. Lady Monbury la menaça du geste avec sa longue main maigre d'un blanc jaune, recourbée comme les serres d'un oiseau de proie. Madame Ferrari se recula et finit par donner l'adresse. Lady Monbury lui montra la porte avec mépris. Puis, changeant d'idée, « Non, 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 pas encore. Vous diriez à Miss Lockwood ce qui est arrivé, et elle pourrait refuser de me recevoir. Je vais y aller immédiatement. Vous viendrez avec moi jusqu'à la porte, pas plus loin. Asseyez-vous, je vais sonner ma femme de chambre. Tournez-vous du côté de la porte, que votre vilaine figure ne me voit pas. » Elle sonna, la servante apparut. « Mon manteau, mon chapeau, et vite !» Elle apporta le manteau et le chapeau qui étaient dans la chambre à coucher. « Une voiture à la porte, et tâchez que je n'attende pas. » La femme de chambre sortit. Lady Monbury se regardait dans la glace. Elle se retourna encore une fois vers Madame Ferraris avec sa vivacité féline. « J'ai déjà l'air à moitié morte, n'est-ce pas ? » dit-elle avec un sourire ironique. « Donnez-moi votre bras. » Elle prit le bras de Madame Ferraris et quitta la chambre. « Vous n'avez rien à craindre tant que vous m'obéirez, » lui dit-elle en descendant l'escalier. « Vous me quitterez à la porte de Miss Lockwood et vous ne me reverrez jamais. » Dans l'antichambre, elles rencontrèrent la propriétaire de l'hôtel. Lady Monbury lui présenta gracieusement sa compagne. « Ma bonne amie, Madame Ferrari, je suis bien heureuse de la revoir. » La propriétaire les accompagna toutes deux jusqu'à la porte. La voiture attendait. « Montez la première, ma chère Madame Ferrari, » dit Milady. « Dites au cocher où il doit aller. » La voiture se mit en marche. L'humeur changeante de Lady Monbury changea encore. Avec une sorte de râle de désespoir, elle se jeta dans le fond du cab. Perdue dans ses tristes réflexions, s'occupant aussi peu de la femme qu'elle avait pliée à sa volonté de faire que si elle n'eût pas été là, elle garda un silence glacial jusqu'à la maison de Miss Lockwood. En un instant, elle se réveilla de son apathie. Elle ouvrit la portière de la voiture et la referma sur Madame Ferraris avant que le cocher eût sauté à bas de son siège. « Conduisez madame à un mile d'ici, chez elle, » lui dit-elle en lui tendant le prix de sa course. Un instant après, elle avait frappé à la porte de la maison. Elle entra, la porte se referma sur elle. « Où faut-il aller, madame ?» demanda le cocher. Madame Ferrari se porta la main à son front, essayant de rassembler ses idées. Pouvait-elle laisser ainsi seule, sans défense, son amie, sa bienfaitrice à la merci de Lady Monbury? Elle se demandait encore ce qu'elle allait faire quand un homme s'arrêta à son tour à la porte de Miss Lockwood. Se retournant par hasard, il vit Madame Ferrari à la portière de la voiture. « Ah, venez-vous aussi chez Miss Agnès ?» demanda-t-il. C'était Henry Westwick. Ah, sa vue, elle joignit les mains en signe de joie. « Entrez, monsieur, cria-t-elle, entrez tout de suite. Cette abominable femme est avec Miss Agnès. Allez et protégez-la. »« Quelle femme ?» demanda Henry. La réponse le frappa littéralement de stupeur. Quand il entendit prononcer le nom détesté de Lady Monbury, il fixa Madame Ferraris avec un regard plein d'étonnement et d'indignation. « Oh, j'y vais !» fut tout ce qu'il put dire. Il frappa à la porte de la maison et entra à son tour. Chapitre 10 Lady Monbury, mademoiselle. Agnès était en train d'écrire une lettre quand la servante la fit tressaillir en annonçant une pareille visiteuse. Sa première idée fut de refuser sa porte à la femme qui venait ainsi la trouver. Mais Lady Monbury était sur les talons de la bonne. Avant qu'Agnès eût prononcé une parole, elle était déjà dans la chambre. « Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Lockwood, j'ai une question à vous faire, fort intéressante pour moi. Personne que vous n'y peut répondre. » C'est ainsi que, tout bas, en hésitant, ses grands yeux noirs fixés à terre, Lady Monbury commença l'entretien. Sans réponse, Agnès désigna un siège. C'est tout ce qu'elle pouvait faire en ce moment. Ce qu'on lui avait appris de la vie triste et retirée qu'on menait au palais de Venise, ce qu'elle savait de la lugubre mort et de l'enterrement de Lord Monbury à l'étranger, lui revint tout à coup à l'esprit quand elle vit en face d'elle cette femme habillée de noir, encadrée dans la porte. L'étrange conduite de Lady Monbury en cette circonstance ajoutait encore à la perplexité, aux doutes et aux craintes qui la troublaient. C'était donc là l'aventurière dont la réputation s'était perpétuée partout où elle avait passé, dans l'Europe entière. La furie qui avait terrifié Madame Ferraris à l'hôtel était maintenant toute timide et toute tremblante. Depuis qu'elle était entrée dans la chambre, Lady Monbury ne s'était pas risquée une seule fois à regarder Agnès. Elle hésitait en avançant pour prendre la chaise qu'on lui avait désignée. Elle posa la main sur le dossier pour se soutenir et resta debout. « Je vous prie de m'accorder un moment pour me remettre, » dit-elle faiblement. Sa tête tomba sur sa poitrine. Elle était devant Agnès comme un coupable devant un juge sans pitié. Le silence qui suivit était bien un silence de peur. À ce moment, la porte s'ouvrit et Henry Westwick apparut. Il regarda fixement Lady Monbury, la salua avec une froide politesse et passa en silence. À la vue de son beau-frère, le courage défaillant de Milady lui revint aussitôt. Sa taille, courbée un moment auparavant, se redressa. Ses yeux s'arrêtèrent sur ceux de Westwick, qui brillaient de défiance. Elle lui rendit son salut avec un sourire plein de mépris. Henry traversa la chambre pour aller vers Agnès. « Lady Bombary est-elle ici sur votre demande ?» demanda-t-il tranquillement. « Non. Désirez-vous la voir ?»« Sa visite m'est très pénible. » Il se tourna vers sa belle-sœur. « Entendez-vous ? » demanda-t-il froidement. « J'entends, » répondit-elle plus froidement encore. « Votre visite est à tout le moins hors de saison. »« Votre intervention est tout le moins fort déplacée. » Lady Monbury s'approcha d'Agnès. La présence d'Henry Westwick semblait l'enhardir. « Permettez-moi, Miss Lockwood, de vous adresser une question, » dit-elle avec une courtoisie pleine de grâce. « Elle n'a rien qui puisse vous embarrasser. » Quand le courrier Ferraris demanda un emploi à feu mon mari, avez-vous... Le courage lui manqua pour continuer. Elle tomba toute tremblante sur la chaise la plus proche, mais elle se remit presque aussitôt. Avez-vous permis à Ferraris, reprit-elle, de se recommander à nous en se servant de votre nom ? Agnès ne répondit pas avec sa franchise habituelle. Le nom de Monbary, prononcé par cette femme, l'avait rendue, pour ainsi dire, toute confuse. « Mais il y a longtemps que je connais la femme de Ferraris, » dit-elle, « et je prends intérêt. » Lady Monbary se leva aussitôt en joignant les mains avec un geste de suppliante. « Ah, Miss Lockwood, ne perdez pas votre temps à me parler de la femme. Répondez à ma question simplement. » « Oh, laissez-moi lui répondre, dit tout bas, Henri. Vous verrez que ce ne sera pas long. » Agnès refusa d'un geste. L'interruption de Lady Monbary l'avait rappelée à elle-même. Elle recommença une nouvelle réponse. « Et quand Ferraris a écrit à feu Lord Monbury, il a certainement dû prononcer mon nom. » Mais en ce moment, elle ne comprenait pas encore l'objet de la visite de la comtesse. L'impatience de Lady Monbury en arriva à son comble. Elle se leva d'un bond et marcha sur Agnès. « Est-ce avec votre permission, et saviez-vous que Ferraris se servirait de votre nom ?» demanda-t-elle. « C'est tout ce que je vous demande. Pour l'amour de Dieu, répondez-moi oui ou non. »«
Oui. »
Ce seul mot frappa Lady Monbary de stupeur. L'expression de vie qui avait animé son visage l'instant d'avant disparut soudain. On aurait dit une femme changée en statue de pierre. Elle était debout, fixant machinalement Agnès dans une immobilité si complète que les deux personnes qui la regardaient voyaient à peine sa poitrine se gonfler sous l'effet de la respiration. Henri prit la parole un peu brutalement. « Remettez-vous, lui dit-il. Vous avez votre réponse maintenant, n'est-ce pas ?» Elle se retourna vers lui. « C'est ma condamnation que j'ai reçue. » Et tournant lentement sur elle-même, elle allait quitter la chambre. Mais au grand étonnement d'Henri, Agnès l'arrêta. « Attendez un peu, Lady Mumbari. J'ai quelque chose à vous demander à mon tour. Vous avez parlé de Ferraris. Je désire en parler aussi. » Lady Mumbari baissa la tête en silence. Elle prit son mouchoir et le posa sur son front d'une main tremblante. Agnès remarqua son émotion et recula d'un pas. « Le sujet vous serait-il pénible ?» demanda-t-elle timidement. Toujours silencieuse, Lady Mumbari l'invita d'un geste à continuer. Henri s'approcha, regardant attentivement sa belle-sœur. Agnès reprit. « On n'a découvert aucune trace de Ferraris en Angleterre. Avez-vous eu quelques nouvelles de lui et voulez-vous me dire si vous en savez quelque chose ? Je vous en prie, par pitié pour sa femme. » Les lèvres minces de Lady Mumbari se pincèrent encore et reprirent leur sourire triste et cruel. « Mais pourquoi me demandez-vous à moi des nouvelles d'un homme qui a disparu ? Vous saurez ce qu'il est devenu, Miss Lockwood, quand le temps sera venu. » Agnès tressaillit. « Mais je ne vous comprends pas, répondit-elle. Comment le saurais-je? Est-ce que quelqu'un me le dira? Quelqu'un vous le dira. » Henri ne put garder le silence plus longtemps. « Ce quelqu'un, c'est peut-être vous, madame, » reprit-il avec une politesse ironique. Elle lui répondit avec une désinvolture pleine de mépris. « Peut-être bien, monsieur Westwick. Un jour ou l'autre, je puis être la personne qui apprendra à Miss Lockwood ce qu'est devenu Ferrari ici. » Elle s'arrêta, ses yeux fixèrent Agnès. « Si quoi ?» demanda Henri. « Si Miss Lockwood m'y force. » Agnès écouta, tout étonnée. « Si je vous y force, » répéta-t-elle, « mais comment le pourrais-je? Prétendez-vous que ma volonté est supérieure à la vôtre? Et prétendez-vous que la flamme ne brûle pas le papillon qui vient d'y voltiger ?» reprit Lady Mumbari. N'avez-vous jamais entendu dire que la peur exerça sur nous une sorte de fascination? J'ai peur de vous, et vous m'attirez. Je n'ai aucune raison pour vous faire une visite. Je n'ai nullement le désir de vous voir, car vous êtes une ennemie pour moi. C'est la première fois de ma vie, je le jure, que contre ma propre volonté, je me soumets à quelqu'un. Vous voyez? J'attends, parce que vous m'avez dit d'attendre, et la peur m'envahit, je le jure, depuis que je suis ici. Oh, ne laissez paraître ni pitié ni curiosité. Soyez dur et brutal et impitoyable comme lui. Dites-moi de partir. » La nature si simple et si franche d'Agnès ne put découvrir à cette sortie si inattendue qu'une seule signification. « Vous vous trompez, dit-elle en me croyant votre ennemi. Le mal que vous m'avez fait en épousant Lord Mumbari, vous n'en êtes pas responsable. Je vous ai pardonné ce que j'ai souffert alors qu'il vivait. Maintenant qu'il est mort, je vous pardonne plus complètement encore. » Henri souffrait en écoutant. Il l'admirait aussi. « Ne dites plus rien, s'écria-t-il, vous êtes trop bonne pour elle, elle n'en vaut pas la peine. » Lady Bonbury n'entendit pas la phrase d'Henry Westwick. Les paroles si simples qu'avait prononcées Agnès absorbaient toute l'attention de cette étrange femme. Pendant qu'elle écoutait, son visage avait pris une expression de tristesse véritable. Quand elle reprit la parole, sa voix était changée. Elle indiquait la résignation, mais la résignation sans espoir. Innocente et bonne créature que vous êtes, dit-elle, qu'importe votre pardon. Quelles sont les pauvres petites fautes que vous pouvez avoir commises en comparaison de celles dont il sera demandé compte? Savez-vous ce que c'est que d'avoir le pressentiment d'un malheur qui vous menace et d'espérer cependant que ce pressentiment vous trompe? Quand je vous vis pour la première fois avant mon mariage, quand je ressentis pour la première fois l'influence que vous avez sur moi, j'espérais. C'était une lueur qui me soutenait dans ma triste vie. Mais aujourd'hui, cette lueur s'est évanouie. C'est vous qui l'avez éteinte en me répondant comme vous l'avez fait à mes questions sur Ferraris. Mais comment ai-je pu briser vos espérances? Demanda Agnès. Qu'y a-t-il de commun entre Ferraris se servant de mon nom pour entrer au service de mon mari et les choses étranges que vous me racontez maintenant? Oh, le moment est proche, Miss Lockwood, où vous le saurez. En attendant, je vais vous dire pourquoi j'ai peur de vous aussi simplement que possible. Le jour où je vous ai pris votre idole, le jour où j'ai brisé votre vie, vous êtes devenu, à dater de ce jour, j'en suis fermement persuadé, l'instrument de mon châtiment pour les fautes que j'ai commises depuis de longues années. Cela est arrivé déjà. Avant aujourd'hui, il s'est trouvé une personne qui, sans s'en douter, a développé chez l'autre l'instinct du mal. C'est ce que vous avez fait pour moi. Mais votre tâche n'est pas terminée. Il vous reste encore à me conduire au jour où je serai découverte et où la punition qui m'attend viendra me frapper. Nous nous reverrons donc ici en Angleterre ou là-bas à Venise, où mon mari est mort et où nous nous reverrons pour la dernière fois. Malgré son bon sens, malgré son mépris des superstitions de tout genre, Agnès fut vivement impressionnée par le terrible sang-froid avec lequel ces mots avaient été prononcés. Elle se tourna toute pâle vers Henri. « La comprenez-vous ? » demanda-t-elle. « Oh, rien n'est plus facile, » répliqua-t-il avec dédain. « Elle sait ce qu'elle veut du Ferraris. Elle est en train de vous débiter un tas de niaiseries. » Parce qu'elle n'ose pas avouer la vérité, allez laisser-la partir. Agnès n'entendit pas plus les dernières paroles de Lady Montbarry que si les aboiements d'un chien eussent couvert la voix de celle-ci. Conseillez à votre intéressante Madame Ferraris d'attendre un peu, dit-elle. Vous saurez ce qu'est devenu son mari, et vous le lui direz. Il n'y aura rien d'effrayant. Des causes insignifiantes, aussi insignifiantes que l'engagement d'un courrier par mon mari, pour me mettre en présence. Folie que tout cela, n'est-ce pas, monsieur Westwick? Mais vous êtes indulgent pour les femmes. Nous disions toutes des folies. Allez, bonjour, Miss Lockwood. Elle ouvrit la porte et s'enfuit comme s'il eût été et s'il eut peur qu'on la retint encore. Chapitre 12. Mais qu'en pensez-vous? Demanda Agnès. Elle est folle? Bon, je pense tout simplement que c'est une méchante femme. Fausse, superstitieuse et mauvaise jusqu'à la moelle, mais non pas folle. Je crois que son principal motif en venant ici était de se donner le plaisir de vous faire peur. Elle m'a fait peur, c'est vrai. J'ai honte d'en convenir, mais cela est. Henri la regarda, hésita un moment, et s'assit sur le sofa à côté d'elle. « Je suis très inquiet de vous, Agnès. Sans le hasard heureux qui m'a conduite ici aujourd'hui, qui sait ce que cette misérable femme aurait pu vous dire ou vous faire? Vous menez une vie bien triste et bien solitaire, sans protection aucune, ma pauvre amie. Je n'aime pas à y penser, je voudrais la voir changer, surtout après ce qui vient de se passer. » Non, 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 il est inutile de me dire que vous avez votre vieille nourrice. Elle est trop vieille, ce n'est pas une compagnie pour vous, et elle ne peut nullement vous protéger. Ne vous me prenez pas au sens de mes paroles, Agnès. Ce que je dis là, je le dis en toute sincérité et dans votre intérêt. » Il s'arrêta et lui prit la main. Elle fit un léger effort pour la retirer et finit par céder. Un jour ne viendra-t-il donc pas? Continua-t-il, où j'aurai le droit de vous défendre? Où vous serez la joie et le bonheur de ma vie? Il pressa doucement sa main. Elle ne répondit pas, mais elle rougit et pâlit tour à tour. Ses yeux erraient dans le vague. Mais j'étais assez malheureux pour vous déplaire, demanda-t-il. Elle répondit presque à voix basse. Non, mais vous m'avez fait songer aux tristes jours que j'ai passés, murmura-t-elle. Elle ne dit pas autre chose, mais elle essaya pourtant pour la seconde fois de retirer sa main. Il continua à la tenir et la porta à ses lèvres. Ne pourrais-je donc jamais vous faire penser à d'autres jours plus heureux que ceux-là, aux jours à venir? Ou s'il faut absolument que vous songiez au temps passé, ne pouvez-vous pas vous souvenir de l'époque où je vous aimais et je vous le dis pour la première fois? Elle soupira. Épargnez-moi, Henri, répondit-elle tristement, ne parlez pas davantage. La couleur revint à ses joues, sa main trembla. Elle était belle ainsi, les yeux baissés et la poitrine se soulevant doucement. Il aurait donné tout au monde pour la prendre dans ses bras et l'embrasser. Une sympathie mystérieuse, une pression de main, fit comprendre à Agnès cette pensée secrète. Elle lui ôta sa main et fixa sur lui son regard. Elle avait des larmes aux yeux. Elle ne dit rien. Son regard parlait pour elle. Il disait, sans colère, sans haine, mais nettement, qu'il ne fallait pas la presser davantage en ce moment. « Dites-moi seulement que vous me pardonnez, » reprit-il en se levant. « Oui, je vous pardonne. » Je n'ai rien fait pour baisser dans votre estime, Agnès. Oh non. Voulez-vous que je vous quitte? Elle se leva à son tour, se dirigeant sans répondre vers la table à écrire. La lettre interrompue par l'arrivée de Lady Monbury était grande ouverte sur son buvard. Elle la regarda, puis se tournant vers Henri avec un sourire plein de charme. « Il ne faut pas vous en aller encore, » dit-elle. « J'ai quelque chose à vous apprendre, mais je ne sais pas comment faire. Ce qu'il y a de plus simple est peut-être de vous le laisser deviner tout seul. Vous venez de parler de ma vie solitaire et sans protection. Oui, ce n'est pas une vie bien heureuse, j'en conviens. » Elle s'arrêta, observant l'anxiété croissante qui se peignait sur le visage d'Henri à mesure qu'elle parlait. « Savez-vous que je me le suis déjà dit avant vous ?» continua-t-elle. « Il va y avoir un grand changement dans ma vie. Et si votre frère Stéphane et sa femme y consentent ?» Tout en parlant, elle ouvrit son pupitre et en sortit une lettre qu'elle tendit à Henri. Il prit machinalement la lettre. Il ne comprenait pas ce qu'il venait d'entendre. Il était impossible que le changement de vie dont elle venait de parler signifiât qu'elle allait se marier, et cependant, il n'osait pas ouvrir la lettre. Leurs yeux se rencontrèrent, elle sourit. « Regardez l'adresse, dit-elle. Vous devez connaître l'écriture, mais je crois que vous ne la reconnaissez pas. » Il la regarda, c'était une grosse écriture, l'écriture irrégulière et incertaine d'un enfant. Il prit aussitôt la lettre. « Chère tante Agnès, notre gouvernante va s'en aller. Elle a eu de l'argent qui lui a été légué et une maison. Nous avons eu du vin et du gâteau pour boire à sa santé. » Vous avez promis d'être nos gouvernantes si vous en avions besoin d'une. Nous vous voulons, mais maman n'en sait rien. Venez, s'il vous plaît, avant que maman puisse se procurer une autre gouvernante. Votre aimante Lucie qui écrit cela. Clara et Blanche ont essayé d'écrire aussi, mais elles sont trop petites. Ce sont elles qui tapent le buvard sur ma lettre pour la sécher. « C'est de votre nièce aînée, » dit Agnès à Henri, qui la regardait avec étonnement. « Oui, les enfants m'appelaient ma tante quand j'étais avec leur mère en Irlande cet automne. Elle ne me quittait pas. Ce sont les plus charmants bébés que je connaisse. C'est vrai, le jour où je les ai quittés pour revenir à Londres, j'ai offert d'être leur gouvernante, si jamais ils en avaient besoin. » Et au moment où vous êtes entrés, j'écrivais à leur mère pour lui proposer de nouveau. « Sérieusement ?» s'écria Henri. Agnès lui mit sa lettre inachevée dans la main. Elle en avait assez écrit pour prouver qu'elle offrait sérieusement d'entrer dans la maison de M. et Mme Stephen Westwick en qualité de gouvernante. L'étonnement d'Henri ne peut se décrire. « Ils ne croiront pas que c'est sérieux, » dit-il. « Pourquoi pas ?» demanda tranquillement Agnès. « Vous êtes la cousine de mon frère Stephen. Vous êtes une vieille amie de sa femme. Raison de plus, Henri, pour qu'ils me confient leurs enfants. Mais vous êtes leur égal. Rien ne vous oblige à gagner votre vie en donnant des leçons. Il est impossible que vous entriez à leur service comme gouvernante. Mais qu'y a-t-il d'impossible à cela ? Les enfants m'aiment, leur père m'a donné de nombreuses preuves de véritable amitié et d'estime. Je suis bien la femme qu'il faut pour cette place. Et quant à mon éducation, il faudrait vraiment que je l'aie complètement oubliée pour n'être plus capable d'enseigner à 3 petits-enfants dont l'aîné n'a que 12 ans. Vous dites que je suis leur égale. Mais n'y a-t-il donc pas d'autres femmes, d'autres gouvernantes qui soient les égales des personnes qu'elles servent? Ne savez-vous pas que votre frère est le plus proche héritier du titre? Ne sera-t-il pas lord? Ne me répondez pas. Nous ne discuterons pas si j'ai tort ou raison de me faire gouvernante. Attendons que ce soit fait. Je suis fatigué de mon existence, inutile et solitaire. Et je veux rendre ma vie plus heureuse et plus utile, surtout dans une maison que je préfère à toutes les autres. Si vous voulez jeter encore un coup d'œil sur ma lettre, vous verrez qu'il me reste à stipuler certaines considérations personnelles avant de la terminer. Vous ne connaissez pas aussi bien que moi votre frère et sa femme, si vous doutez de leur réponse. Je crois qu'ils ont assez de courage et de cœur pour me répondre oui. Henri se soumit sans être convaincu. C'était un homme qui détestait toute excentricité en dehors des coutumes et même de la routine. Le changement subit qui allait se produire dans la vie d'Agnès lui donnait quelques craintes. Avec un but à atteindre devant les yeux, elle serait peut-être moins favorablement disposée à l'écouter la prochaine fois qu'il lui ferait sa cour. Cette existence solitaire et inutile dont elle se plaignait, ne pouvait que le servir dans ses desseins. Tant que son cœur était vide, on ne pouvait y trouver que place. Mais quand elle serait avec ses nièces, en serait-il de même? Il connaissait assez les femmes pour garder ses craintes égoïstes pour lui seul. Une politique de temporisation était la seule à suivre avec une femme aussi sensitive qu'Agnès. S'il l'offensait, il était perdu. Pour le moment, il se tut sagement et changea de conversation. « La lettre de ma petite nièce, dit-il, a produit un effet dont l'enfant ne pouvait se douter en écrivant. Elle vient justement de me rappeler une des raisons qui m'ont fait venir ici aujourd'hui. » Agnès regarda la lettre de l'enfant. Mais comment Lucie a-t-elle pu faire cela? Oh, la gouvernante de Lucie n'est pas la seule personne qui ait fait un héritage, répondit Henri. Votre vieille nourrice est-elle dans la maison? Est-ce que ma nourrice a hérité de 100 livres sterling? Envoyez-la chercher, Agnès, pendant que je vais vous faire voir la lettre. Il tira un paquet de lettres de sa poche et le feuilleta, tandis qu'Agnès sonnait. Elle revint ensuite près de lui. Un prospectus imprimé, qui se trouvait au milieu d'autres papiers sur la table, lui frappa les yeux. Il portait en tête « Palace Hotel Company of Venice, Limited ». Ces deux mots « Palace » et « Venice » lui rappelèrent aussitôt la visite importune de Lady Monbury. « Qu'est-ce que cela ?» demanda-t-elle en lui tendant la paupière papier et lui montrant le titre. Henri cessa ses reproches et regarda le prospectus. « Oh, une affaire sûrement excellente, dit-il. Les grands hôtels font toujours de l'argent quand ils sont bien administrés. Je connais l'homme qui a été choisi comme gérant et j'ai en lui une telle confiance que j'ai pris des actions de la compagnie. » La réponse ne parut pas contenter entièrement Agnès. « Et pourquoi l'hôtel s'appelle-t-il Palace Hôtel ? » demanda-t-elle. Henri la regarda et devina sur le champ pourquoi elle lui faisait cette question. « Oui, dit-il, c'est le palais que Monbary a loué à Venise. Il a été acheté par une compagnie qui en fait un hôtel. » Agnès s'éloigna en silence et prit une chaise à l'autre extrémité de la chambre. Henri venait de blesser ses sentiments les plus délicats. Il était le plus jeune fils de la famille et son revenu avait besoin de toutes les augmentations qu'il pouvait y faire par d'heureuses spéculations. Mais elle était assez déraisonnable pour blâmer la tentation dont il venait de lui parler. Gagner de l'argent avec la maison où son frère était mort. Incapable de comprendre une semblable pensée, quand il était question d'affaires surtout, Henri recommença à feuilleter ses papiers, attristé par le changement soudain dont il venait de s'apercevoir dans les manières d'Agnès. Juste au moment où il trouvait la lettre qu'il cherchait, la nourrice entra. Il jeta un regard sur Agnès, s'attendant à ce qu'elle parlât la première. Mais elle ne leva même pas les yeux quand la nourrice parut. C'était laissé à Henri le soin de dire à la vieille femme pourquoi la sonnette l'avait appelée au salon. « Eh bien, nourrice, dit-il, vous avez une jolie chance. On vous a fait un lait de 100 000 livres sterling. » La nourrice ne montra aucun signe de joie. Elle attendit un peu pour bien fixer dans son esprit l'importance de ce don. Puis elle dit tranquillement, « Monsieur Henri, qui me laisse cet argent, s'il vous plaît ?»« Un feu, mon frère, Lord Monbury !» Agnès se leva aussitôt la tête, semblant pour la première fois s'intéresser à ce qu'on disait. Henri continua. « Mais son testament contient des legs pour tous les vieux serviteurs de la famille. Voici une legs de son notaire vous autorisant à aller toucher l'argent chez lui. » Dans toutes les classes de la société, la reconnaissance est la plus rare des vertus. Dans la classe à laquelle appartenait la nourrice, elle est extraordinairement rare. Le lait qu'on venait de lui annoncer ne changeait nullement ce qu'elle pensait de l'homme qui avait trompé et abandonné sa maîtresse. « Mais je me demande, qu'est-ce qui a bien pu faire souvenir Milord de ce vieux domestique ?» dit-elle. « Il n'a jamais eu assez de cœur pour s'en souvenir lui-même. » Agnès intervint aussitôt. « La nature, qui aborde en toute chose la monotonie, a fait les contrastes les plus violents, même chez les femmes les plus douces. Agnès, elle aussi, se mettait quelquefois en colère. Elle ne put supporter la façon dont la nourrice venait de s'expliquer sur mon mari. Non, mais si vous avez encore quelques rondes, s'écria-t-elle, vous devriez rougir de ce que vous venez de dire. Votre ingratitude m'écœure. Oh, je vous laisse avec elle, Henri. Cela ne vous fait rien à vous. Après cette réflexion significative qui lui prouvait qu'il avait lui aussi perdu dans l'estime d'Agnès, elle quitta la chambre. La nourrice reçut la verte semonce qui venait de lui être faite plutôt en riant. Quand la porte fut fermée, ce philosophe en jupon fit signe à Henri. « Il y a un entêtement incroyable chez les jeunes femmes, dit-elle. Mademoiselle ne veut pas convenir que Lord Montbarry était un méchant homme, quoiqu'il l'ait trompé. Et maintenant qu'il est mort, elle l'aime encore. Dites un mot contre lui, et elle part comme une fusée, vous venez de voir. C'est de l'entêtement. Bon, cela se passera avec le temps. Tenez bon, monsieur Henri, tenez bon. Mais elle ne paraît pas vous avoir fâché, dit Henri. Elle, oh, répéta la nourrice avec étonnement. Elle me fâchait. Mais je l'aime avec sa mauvaise humeur. Cela me la rappelle quand elle était bébé. Que le Seigneur la bénisse. Quand je vais aller lui dire bonsoir, elle me donnera un gros baiser, la pauvre chérie, et me dira « Nourrice, ne m'en veux pas, je n'étais pas sérieuse tantôt. » À propos de cet argent, monsieur Henri, si j'étais plus jeune, je le dépenserais en toilette ou en bijoux. « Mais je suis trop vieille maintenant. Que ferai-je de mon lait quand je l'aurai ?»« Un place est là et toucher les intérêts, lui dit Henri. Tant par an, vous savez. Combien aurai-je ? Demanda la nourrice. « Si vous mettez vos 100 livres sur les fonds publics, vous aurez entre 3 et 4 livres par an. » La nourrice secoua la tête. « 3 ou 4 livres par an ? Oh, cela fait pas mon affaire. Je veux davantage. Tenez, monsieur Henri, je me souviens de ce petit peu d'argent. Je n'ai jamais aimé l'homme qui me l'a laissé bien qu'il soit votre frère. Si je perdais tout demain, pour cela ne me ferait rien. J'en ai assez comme cela pour le reste de mes jours. » On dit que vous êtes un spéculateur. Ben dites-moi une bonne affaire, vous seriez bien aimable. Tout ou rien, et voilà pour les fonds publics, ajouta-t-elle, en faisant claquer ses doigts, exprimant ainsi son profond mépris pour un placement garanti à 3%. Henri montra le prospectus de la Venetian Hotel Company. « Vous êtes une drôle de vieille femme, dit-il. Tenez, joueuse effrénée, voilà quelque chose pour vous. C'est tout ou rien, mais faites bien attention. Il faut garder la chose secrète pour Miss Agnès, car je ne suis pas du tout certain qu'elle approuverait le conseil que je vous donne. » La nourrice prit ses lunettes. 6% garantie, dit-elle. Et les directeurs ont des raisons de croire qu'ils pourront donner prochainement 10% et plus à leurs actionnaires. Oh, intéressez-moi dans cette affaire, monsieur Henri. Et pour l'amour de Dieu, partout où vous irez, recommandez l'hôtel à vos amis et tâchez qu'ils réussissent. La nourrice suivit le conseil que venait de lui donner Henri et eut, elle aussi, son intérêt dans la maison où était mort Lord Monbury. 3 jours s'écoulèrent avant qu'Henri pût revoir Agnès. Mais après cet intervalle, le léger nuage qu'il y avait entre eux était entièrement dissipé. Agnès le reçut avec plus d'amabilité que de coutume. Elle semblait de meilleure humeur. Elle avait reçu courrier par courrier une réponse à la lettre qu'elle avait adressée à Madame Stéphano Westwick. Son offre avait été acceptée avec joie, mais à une condition, c'est qu'elle resterait d'abord 1 mois chez les Westwick sans s'occuper de rien. Après cela, si réellement elle voulait enseigner aux enfants, elle devait être gouvernante, tante, cousine, tout en un mot, et elle ne quitterait la famille qu'au cas où elle se marierait, ce dont ses amis d'Irlande ne désespéraient pas. « Vous voyez que j'avais raison, » dit-elle à Henri. Mais lui n'y croyait pas encore. « Partez-vous réellement ?» demanda-t-il. « Je pars la semaine prochaine. Quand vous reverrai-je ? Vous savez bien que vous êtes toujours le bienvenu chez votre frère. Vous me verrez quand vous voudrez. » Elle lui tendit la main. « Pardonnez-moi, si je vous quitte, je fais déjà mes mal. » Henri essaya de l'embrasser en la quittant. Elle se recula vivement. « Pourquoi pas ? Je suis votre cousin, » dit-il. « Je n'aime pas qu'on m'embrasse, » répondit-elle. Henri la regarda sans insister. Son refus de lui accorder ce qu'il regardait comme un privilège de cousin lui semblait de bon augure. C'était indirectement l'encourager comme amoureux. Le premier jour de la semaine suivante, Agnès quitta Londres pour l'Irlande. Comme on le verra plus tard, ce n'était que le commencement d'un voyage plus long. L'Irlande devait seulement être sa première étape sur un chemin détourné, chemin qui la conduisit au palais, à Venise.